Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
C'est bientôt Noël et le moment de penser au dernier cadeau à faire.
C'est
alors,
ça.
Laura, libraire chez Gibert Doucet, notre nouvelle chroniqueuse littéraire, va nous donner quelques idées de livres à offrir ou à recevoir, un livre étant toujours un cadeau. Bonjour Laura.
Bonjour.
Merci d'être venue à Radio Alpa pour Asialogie. Et pour terminer bien l'année, Didier,
oui.
Tu vas nous emmener au sport d'hiver.
Je vais essayer.
Et pas n'importe où.
Non. Pas n'importe où.
Et pas dans n'importe quelle neige.
Voilà, avant d'aller goûter la poudreuse qu'on va vous faire découvrir, on va déjà commencer à découvrir notre nouvelle chroniqueuse, parce que les auditeurs ne la connaissent pas.
Non.
Donc en fait, j'aurais envie de savoir, Laura, depuis quand vous êtes libraire, et puis quelle est votre spécialité, avant de partir vers les livres que vous allez nous proposer.
Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, je m'appelle Laura, je suis libraire depuis 18 ans maintenant.
Ah oui.
Voilà, j'ai fait pas mal de librairies à Paris.
D'accord.
Plusieurs, 5-6, quelques-unes en Ile-de-France avant d'arriver au Mans. Voilà, donc j'ai un parcours assez général dans plein de librairies différentes, dans plein d'échelles de librairies différentes avant d'arriver à Gibert Doucet.
Okay. D'accord, très bien Laura. Et comme vous a posé la question Didier,
avez-vous une spécialité?
Oui, pardon.
Voilà.
Oui, en effet, j'aime énormément la littérature asiatique.
Ça tombe bien.
Étonnant. voilà, donc Japon, Corée, Chine notamment, ainsi que l'imaginaire.
Et l'imaginaire.
Parfait.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'imaginaire dans la littérature asiatique, Laura?
Il y en a de plus en plus.
C'est vrai?
C'est une bonne nouvelle. Oui.
Très bien.
Forcément, pour une passionnée, c'en est une.
Alors, vous avez choisi, Laura, de nous présenter 5 livres pour notre émission de Noël. Alors, vous avez choisi « Les petits pains de la pleine lune ». Un roman coréen, « La fille de la supérette » et « Le restaurant des recettes oubliées ». Des romans japonais.
D'accord.
La guerre du pavot qui se passe en Chine, mmh. qui est un roman chinois, une trilogie même, je crois. Et pour terminer, si on a le temps, on parlera de miso soup.
Très bien.
D'accord.
Voilà. Alors, y a-t-il quelque chose qui relie ces livres entre eux, malgré leur style et leur univers très différents? Pourquoi avoir choisi ceux-là? Enfin, pourquoi ces 5-là?
Alors, ce sont des livres que j'ai choisis étant donné que c'est ceux qui m'ont le plus touchée en plus de presque 20 ans de lecture.
Ah oui, quand même.
D'accord.
Oui, vraiment. Ce qui les relie après, ça va être surtout l'onirisme. Un onirisme qu'on ne va pas retrouver forcément dans d'autres littératures. On va retrouver de la poésie, de la grandeur dans d'autres littératures du monde, mais je trouve qu'en Asie, notamment Corée et Japon, on va trouver de l'onirisme, du voyage entre deux mondes, entre deux univers.
Oui, qu'on retrouve chez Murakami.
Exactement, qui est vraiment à l'image de cette littérature. Ce n'est pas juste Murakami, en fait, c'est beaucoup d'auteurs asiatiques qui ont cette
avec les mondes parallèles.
Exactement.
Il y a des histoires de deux lunes, toujours, hein, en Asie.
C'est ça.
Alors, on va peut-être commencer par... on va commencer par, ouais, les petits pains de la pleine lune, Laura. Racontez-nous, alors, ces petits pains de la pleine lune, sans spoiler, bien sûr.
Bien, évidemment.
Mais alors, quel est l'intérêt de lire les petits pains de la pleine lune?
Alors, l'intérêt, il est multiple. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui fuit en fait le domicile familial. On ne sait pas pourquoi au début. Et il va se réfugier dans une boulangerie un peu spéciale qui vend des pâtisseries vraiment particulières et qui est tenue par une jeune femme qui peut se transformer en oiseau. Bon, comme ça, c'est quand même assez intriguant.
C'est sûr.
Et plus on avance dans l'histoire, plus on va découvrir des métaphores de contes de fées aussi bien occidentaux que autres. Et pourquoi c'est un de mes livres préférés? Tout simplement parce que l'onirisme de cette histoire, son côté vraiment unique, m'ont énormément porté pendant plus de 10 ans. Et c'est un magnifique texte qui était étonnamment paru en jeunesse à la base aux éditions Piquet et qui a été repris en adulte. Et c'est une très très bonne idée de leur part. Voilà, donc c'est un texte marquant, onirique, magique, surnaturel.
Qui fait du bien.
Qui fait du bien, mais qui parle aussi de sujets assez durs. Que je ne peux pas vous mentionner, étant donné que sinon ce serait du divulgachage. Mais voilà, ça parle des thématiques très fortes sur les non-dits, sur ce que c'est aussi la vie en Corée aujourd'hui, mais au travers, voilà, de métaphores, de petites pâtisseries.
Voilà, oui, et puis les pains, les petits pains de lune, c'est aussi symboliquement sûrement quelque chose d'important. J'imagine que ça fait référence aussi peut-être à des fêtes, non ?
Pour le coup, non, il n'y a pas de référence à des fêtes, mais en gros, dans l'histoire, vous avez plein de petits gâteaux ensorcelés en fonction de la demande que vous avez à faire à la boulangère. Elle va vous faire un pain spécial, aussi bien bénéfique que néfaste.
Ah oui.
À vous de décider.
D'accord. Voilà.
Donc, il n'y a pas la notion de fête de la mi-automne, gâteau de lune ou quoi que ce soit, alors qu'on aurait pu croire. Mais voilà, c'est juste en fonction
de vraiment. Ceux de la pleine lune, en fait. Hein, puis dans la pleine lune, c'est toujours mystérieux.
Oui, c'est vrai.
Même chez nous, en Occident, la pleine lune,
oui,
se passe toujours des choses.
Ça signifie quelque chose aussi, oui, c'est sûr.
Donc, les petits pains de la pleine lune, est-ce que vous pouvez nous dire le nom de l'auteur, Laura ?
C'est Gu Beyongmo.
D'accord, voilà. Gu Beyongmo.
Gu Beyongmo, et elle a fait que 2 livres en France, malheureusement.
D'accord.
On espère un jour l'avoir traduire à nouveau.
Ok. Voilà.
Ok, bah merci pour les petits pains de la pleine lune, Laura. Alors après, on passe à La fille de la supérette. C'est un super livre aussi, paraît-il.
Oui, tout
Dites-nous en quoi il est super.
Il est super.
La fille de la supérette.
Il est vraiment super, mais pour des raisons très très différentes. Là, pour le coup, on est très terre à terre. Pas de poésie, pas d'onirisme, pas de surnaturel du tout, ce qui est plutôt rare dans mes lectures.
On est dans le concret.
On est 100% dans le concret, mais ça s'explique parce que l'autrice, en fait, on ne le sait pas au début, mais c'est carrément autobiographique.
Ah oui.
Elle a vraiment travaillé dans un combini, ces petites supérettes, qui ouvrent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant des années. Et elle a vraiment eu la pression de sa famille pour trouver un mari, parce que au Japon, les vieilles filles, c'est très 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 mal vu,
encore
plus qu'en France, il y a quelques années, il y a quelques décennies. Et donc, elle se dit que pour avoir la paix, elle va trouver un faux petit ami, voilà. Et donc, elle en trouve un. Mais voilà, c'est pas la fin de l'histoire, ou bien au contraire, c'est juste le début.
D'accord.
Et donc, ça explique, c'est un roman très sociétal, et ça explique de façon, je trouve, magistrale, le mal-être nippon des femmes d'aujourd'hui qui trouvent pas leur place dans le Japon, qui a évidemment ses traditions, ses habitudes, surtout vis-à-vis des femmes, et qui veut pas du tout s'en détacher. Et évidemment, les femmes, elles veulent autre chose, en fait, que ce soit au Japon ou ailleurs. Et donc, c'est un superbe portrait d'indépendance.
Émancipateur. Un petit roman émancipateur.
Complètement.
Il m'a paru qu'il avait été primé, ce livre.
Oui, il a eu le prix Akutagawa, il me semble. C'est le plus grand prix au Japon. C'est comme si elle avait eu le Goncourt chez nous.
Oui,
en fait.
Il l'a eu. J'ai feuilleté un peu, j'ai regardé et j'ai vu ça. Oui,
oui, c'est un petit livre, je pense, qui doit être super à lire.
Oui, oui, c'est quand même un prix. C'est un prix. C'est leur Goncourt, donc forcément, ça doit vouloir dire quelque chose.
Voilà, et il est en poche, c'est ça ? Comme les petits pains de la pleine lune, d'ailleurs.
C'est ça.
Donc abordable.
Tout à fait.
Alors, et que dire du roman le restaurant des recettes oubliées, Laura ?
Alors, celui-là, il est particulier, je trouve, parce que souvent, quand on aime le Japon ou même l'Asie, on aime bien manger.
Oui, souvent, c'est lié.
Voilà, ça va avec, c'est obligatoire, j'ai envie de
dire. On aime la culture gastronomique japonaise aussi, souvent, c'est vrai.
Et donc,
on en parle quelquefois.
Je ne nierai pas ça, je pense que les auditeurs qui me connaissent trouveraient ça bizarre.
Et donc, en fait, dedans, justement, vous allez retrouver cet amour du Japon, de sa culture, et là, surtout, on va parler de nourriture, mais par le biais d'enquêtes. Et ça, j'ai trouvé ça génial, le mélange enquête culinaire. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Et donc, vous avez plein de petits chapitres différents. Chaque chapitre s'attarde sur un personnage en particulier qui a une problématique, un mal-être, un souvenir qu'il aimerait raviver. Et grâce à ce petit restaurant qui ressemble vraiment à un boui-boui, qui ressemble à rien, il se dit, on m'a donné l'adresse, je vais y aller, mais ça n'a vraiment pas l'air terrible. Ils y vont et en fait, le menu est extraordinaire. Tout est fait au cordeau avec les ingrédients ultimes qu'il faut avoir pour passer un bon repas. Et donc, ils mettent des enquêtes parce qu'ils essayent de retranscrire une émotion ou un souvenir à la demande de la personne. Ça leur prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour trouver la bonne eau de la bonne ville, au bon endroit, pour faire une bonne recette et qui va leur permettre de faire la paix avec leurs souvenirs, souvent des souvenirs de deuil, de perte, d'amour perdu. Mmh. Et c'est très beau.
Ah oui, voilà. C'est vraiment très beau ce que vous nous dites, Laura.
Ce que j'en ai lu un peu, ouais. Ça, c'est étonnant.
Ça t'a donné envie, Didier.
C'est vrai.
Et oui, il y a un côté un peu le côté mystique de la nourriture en Asie. Hein. On en a déjà parlé par rapport à toute la symbolique des couleurs dans le bibimbap coréen, par exemple. On ne fait pas que manger, on s'inspire en mangeant en Asie. Bon, je ne sais pas si la pause musicale qu'on a choisie va nous inspirer, mais en tout cas, on l'espère. On vous avait parlé de l'histoire du fameux groupe Katsei qui c'était en 2024 qu'il est né.
Oui, je ne sais plus.
Hein, de fin 2023, 2024.
C'est pas ma passion première, donc j'ai plus la date.
C'est pas ta passion. Non. Mais bon, on voulait vous donner de leurs nouvelles. Elles vont très bien et elles viennent de sortir un EP, c'est ça,
un EP.
Ça s'appelle Gabriella et c'est donc Katsei. Je le dis bien, Didier, parce que je suis jamais sûre.
Donc c'est Katsei. Tout va bien. C'est pas moi qui vais te donner des cours de prononciation. Les auditeurs là aussi le savent très bien.
Et c'est sur parti Radio Alpa, donc. C'est rare.
Voilà.
Hot like a bullet, flying too fast, I couldn't catch it. Heart in the casket, you always knew it. The starting role, the main attraction. Got cameras flashing, like ooh. You got everybody's eyes and just you, and I see it too. Yeah, ooh. You can have anyone else you wanted to. I'm begging you, hands off Gabriella, Gabriella, hands off Gabriella, la, la. Back off of my fella, Gabriella, back off Gabriella, la, la. Cause ooh, you could have anyone else you wanted to. I'm begging you, hands off Gabriella, Gabriella, hands off Gabriella, la, 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 la.
Skin on my little, I bet you taste just like the summer under the covers. Me in the middle, overprotective of my lover. You made me wonder, like ooh, if you made all of these fantasies come true, what would you do? Yeah, ooh, you could have anyone else you wanted to, but I'm begging you, hands off Gabriella, Gabriella, hands off Gabriella.
Comme Asialogie va toujours à une vitesse asialogique, vous en avez l'habitude. Katsei, on va faire vite parce qu'on a des livres qui nous attendent et on va
prioriser. Tu préfères les livres, je crois, que Katsei, je le sens bien.
Non, même pas, mais j'ai surtout envie de découvrir les livres. Et je pense que ça va plaire à nos auditeurs. Puis Katsei, ils auront l'écouter ailleurs. Pas de souci.
C'est vrai.
Alors, reprenons. Donc, cette fois, on est dans la guerre du pavot, si je ne me trompe pas, et on change complètement d'univers, avec un style totalement différent. Est-ce qu'on peut parler donc du livre « La guerre du pavot » ?
Laura ?
Oui, alors, « La guerre du pavot », c'est un énorme bouquin, il fait presque 600 pages environ.
Ah oui ?
Ouais. Premier
tome. Contrairement aux autres qui sont plutôt des petits formats.
C'est vrai,
formats.
Mais là il y avait de la matière encore plus que pour les autres. Elle est très très jeune l'autrice, elle n'a même pas 30 ans quand elle l'a écrit, ce qui est assez bluffant et agaçant. Hein,
oui, c'est agaçant.
C'est très agaçant. Ce qui est génial dedans, c'est qu'elle elle réécrit à sa façon, donc façon fantasy, une guerre entre le Japon et la Chine, un Japon historique, une Chine historique, et elle insère là-dedans de la magie. Ça paraît simple, l'histoire est très basique en soi, et pourtant c'est d'une complexité folle. On suit une jeune femme qui a des capacités, elle est douée. En tout cas, elle est acharnée, c'est surtout ça.
C'est une héroïne.
C'est une héroïne, mais elle est très, très acharnée, c'est surtout ça. Elle n'est pas surdouée ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle en veut à fond. Elle veut intégrer la plus grande école militaire du royaume. Et pour ce faire...
De Chine,
enfin, du pays qu'elle nomme autrement, dont je ne me rappelle plus le nom, bien évidemment. Ils le découvriront.
Voilà.
Et elle doit intégrer cette école. Et pour l'intégrer, les examens sont extrêmement horrible, en fait. Il y a Fouille au corps, page 1, déjà pour vérifier qu'elle ne triche pas. Il y a presque de la torture à certains moments, mais pour vérifier en fait qu'elle ne triche pas, parce qu'ils n'en reviennent pas qu'une jeune fille qui n'a aucune éducation, aucun piston, puisse atteindre ce niveau-là.
D'accord.
Ça commence comme ça. Et ça ne s'arrête pas. Donc sa formation, elle est incroyable. C'est un mélange de philosophie, de mathématiques, de stratégie militaire. C'est un mélange de tout ça. Et ce serait vraiment manichéen de dire que c'est une lutte entre le bien et le mal. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus ample que ça. Mmh. Et c'est juste un tome 1 qui est sorti il y a 4 ans chez Actes Sud. Les droits ont été perdus par Actes Sud. Ils ont été rachetés l'année dernière par les éditions de Saxus. Et on a enfin, après tant d'années, le tome 2 qui vient de sortir il y a 3 semaines à peine.
D'accord.
Donc j'ai pas encore eu le temps de le lire.
D'accord, donc c'est une c'est deux volumes ou...
C'est une trilogie.
C'est une trilogie,
tout
donc on attend le troisième aussi.
Oui, l'année prochaine.
Vu
le temps, j'espère que...
Voilà, super. Laura, merci beaucoup. Vous pouvez nous redire tous les titres de ces livres que vous nous recommandez pour se faire offrir ou pour offrir pour Noël.
C'est ça.
D'accord.
Dites-nous.
Alors, il y a Les petits pains de la pleine lune aux éditions Piquet. La fille de la supérette aux éditions Folio. Le restaurant des recettes oubliées qui est en 3 tomes. Pas obligé de les lire dans l'ordre, mais il y a 3 tomes.
Ah, il y a 3 tomes.
Il y a 3 tomes, ouais, okay. Chez J'ai lu. Premier service, deuxième service, troisième service.
Eh oui.
Et enfin, La guerre du pavot aux éditions de Saxus.
Voilà. Merci beaucoup, Laura, d'être venue. Bon, on parlera de Miso Soup, de Ryu Murakami.
Laura sera obligée de revenir.
Peut-être que oui, on pourra parler même de l'auteur, de Ryu Murakami, qui est quand même un grand auteur japonais. Très spécial à lire.
Très spécial.
Très spécial. Voilà. Donc, on aime bien les choses très spéciales, l'asiologie.
Complètement.
On va se faire une petite pause musicale encore.
C'est plus une virgule rigolote, on va dire, pour annoncer ce qui va venir.
D'accord.
On fait comme ça.
Ok, on fait comme ça.
Ouais.
Alors, la virgule de Noël, c'est ça.
Oui, enfin c'est une virgule parce qu'on n'a jamais le temps, mais voilà, vous allez voir.
Merci pour ce très beau cadeau de Noël, avoir la Reine des Neiges en chinois, en mandarin.
Voilà, pour parler de ce qu'on va parler, c'était
je suis sûre que c'est unique, unique en France.
Ah, je pense qu'ils ne vont pas l'entendre souvent.
Ils ne vont pas l'entendre souvent.
Ça, c'est clair.
Voilà, on se fait des petits plaisirs comme ça, Laurent,
ouais,
quelquefois.
Il faut, hein.
Bon, alors les sports d'hiver en Chine,
oui.
Corée, Japon.
Oui.
Didier, alors, raconte-nous.
Allons-y au sport d'hiver. Alors là, ce qui est bien, c'est que je vous emmène au sport d'hiver, mais il n'y a pas de risque de blessure. Tout va bien.
C'est vrai.
Donc, en Extrême-Orient, les sports d'hiver connaissent depuis 20 ans un essor assez spectaculaire. Bah, le Japon possède une longue tradition du ski depuis le début du XXe siècle, mais la Corée du Sud et surtout la Chine ont développé leurs infrastructures plus récemment, notamment grâce aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, et puis en 2018, et ceux de Pékin, qu'on connaît encore mieux, puisque c'est très récent, c'est 2022. Alors, avec des investissements massifs, des paysages exceptionnels, chaque pays propose une approche différente du ski. L'Asie de l'Est est donc aujourd'hui un acteur majeur des sports d'hiver dans le monde. On peut dire que le Japon incarne la tradition, le confort,
fort et la meilleure neige naturelle, on va en reparler, et que la Corée du Sud est un modèle moderne, accessible et urbain, et que la Chine construit à grande vitesse, un peu comme d'habitude, hein, un système gigantesque avec des investissements de l'État et une demande croissante de sa population.
Oui, alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'histoire de la tradition du ski au Japon? Parce qu'il y a quand même une différence, là, on la sent déjà.
Oui, on y revient. Oui. Alors, on peut dire que du Japon, enfin, qu'il a une tradition du ski centenaire, puisqu'il est apparu au début du XXe siècle, introduit par des instructeurs autrichiens. L'Autriche a donc joué un rôle clé avec l'instructeur Theodor Edler von Lersch, j'espère que mon autrichien est bon, grand spécialiste du ski alpin, venu en 1911 pour aider à moderniser l'armée japonaise et entraîner les soldats à mieux se déplacer. À la base,
oui,
c'est
ça. J'avais pas pensé au ski avant les Japonais.
Je sais pas, j'avoue que je connais pas bien l'histoire, mais Lersch va donc introduire au Japon des techniques de ski alpin utilisées en Europe, et tous les Japonais vont découvrir un sport parfaitement adapté à leurs nombreuses montagnes, très enneigées en hiver. La pratique du ski a été d'abord militaire, et dès les années 20, un loisir pour tous de plus en plus apprécié. Alors aujourd'hui, encore, Lersch est considéré comme le père du ski japonais. C'est étonnant, un Autrichien qui est le père du ski japonais. Il a même eu droit à sa statue et un musée dans la ville.
Ils font beaucoup de statues, les Japonais.
Oui,
hein.
Lui, il a la sienne de Joetsu en Hokkaido. En plus de ça, les Jeux Olympiques de Nagano en 1998 ont rendu le ski et les sports de glace encore plus populaires. Ça a aussi joué, quoi.
Donc le Japon est un vrai pays du ski, Didier. Oui. Aujourd'hui, pourquoi le ski est si populaire? Parce que ça aurait pu...
Oui, alors le ski au Japon est devenu un loisir familial incontournable, car tout y est très bien organisé, c'est japonais. Avec des pistes bien entretenues, des services impeccables, une abondance de onsen, des sources chaudes, pour la détente
bien.
Après le ski, nous c'est raclette, là-bas c'est onsen, et la neige particulière et des montagnes japonaises...
On ne peut pas trop se baigner dans la raclette quand
non,
même.
C'est... Bah, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé, mais ça ne me tente pas. Des montagnes japonaises contribue largement au succès du ski. La poudreuse y est exceptionnelle. On l'appelle Japno ou Kanayuki. C'est une neige légère, abondante, considérée comme la meilleure neige du monde. Rien que ça.
Alors, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette neige Kanayuki.
Oui, Kanayuki. Oui. Alors, donc, c'est de la poudreuse japonaise. Elle a un phénomène unique au monde, en fait. Et sa qualité vient principalement d'un phénomène météorologique particulier lié au vent froid et sec de la Sibérie, qui capte donc l'humidité de la mer. Lorsque ces masses d'air arrivent sur la côte ouest du Japon, elle rencontre les montagnes et déverse d'énormes quantités de neige très fines, très légères. C'est un processus comparable à une usine naturelle à neige. Alors cette neige contient peu d'humidité, ce qui lui donne une texture aérienne similaire à du talc. Tu te rends compte?
Ah oui.
Ah ouais. Les skieurs
tout
disent.
Tout le monde n'a pas les vents de Sibérie, la mer.
C'est clair.
C'est
ça. C'est vraiment un phénomène lié à ça. Les skieurs disent souvent qu'on flotte dessus.
Oui, ça.
Alors, je suis pas un grand skieur, mais je crois que j'aurais aimé. Le taux d'enneigement au Japon est le plus élevé du monde. Ça va faire rêver un peu nos régions, avec des niveaux supérieurs à 13 mètres par an. Tu te rends compte? 13 mètres.
Oui, c'est énorme. énorme.
Je pense qu'il y a quelques stations françaises qui aimeraient ça. Ce qui garantit une poudreuse fraîche presque tous les jours pendant l'hiver. Ce qui est au Japon est plus facile qu'ailleurs. Et quand on tombe, les chutes sont moins traumatisantes du coup, et on tombe comme sur un coussin.
Oui, ça
m'aurait
agréable.
Été bien utile.
Ça va me réconcilier avec le ski.
On peut dire du Japon que c'est un paradis pour les skieurs de nombreux pays.
Alors et en Corée, Didier? Donc il n'y a pas de Japon ni de neige Konayuki?
Non.
Alors en quoi c'est différent à part la neige?
Alors en Corée, la pratique du ski...
Tu nous as dit que c'était moderne, urbain,
oui,
tout ça.
Oui, et récente, mais très structurée. Son développement date des années 1980 avec l'augmentation du niveau de vie. C'est surtout l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang qui l'a accéléré. Les montagnes sont nombreuses, mais moins hautes qu'en Corée en fait. Hein, et le public est majoritairement urbain, avec une pratique plus récréative que sportive. Les Coréens font des séjours courts, où viennent skier toute la journée, et puis pour des forfaits de ski nocturne aussi très populaires. Mais la Corée a une neige très abondante, elle commence par...
n'a pas, pardon, une neige très abondante, pardon. Oui, il n'y a pas 13 mètres, quoi.
Bah oui,
on n'est pas
ça,
au Japon.
Y a pas 13 mètres.
Mais elle compense par la production de neige artificielle. J'y viens, les stations, ils sont très modernes, accessibles et adaptés aux débutants.
C'est un petit peu comme le Massif Central chez nous, j'imagine.
Sûrement, ouais.
Alors, et en Chine, c'est comment ?
Alors, la pratique du ski a explosé en Chine depuis les années 2000. C'est le pays où le ski a connu la croissance la plus spectaculaire au monde récemment. Avant les années 2000, le ski existait surtout dans des zones montagneuses du nord-est, mais les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022 ont déclenché là encore une révolution. L'État a fait des investissements énormes pour la construction de dizaines de stations modernes en développant une industrie du ski à l'européenne.
Ah quand même.
Ouais, oui. Avec l'objectif politique de mettre 300 millions de Chinois sur la neige. Eh ouais, rien que ça. Mais aujourd'hui,
ça, c'est rigolo.
C'est ça, mais non, mais c'est hors norme toujours là-bas.
Oui.
Et toujours un phénomène urbain et émergent pratiqué par des jeunes adultes, des classes moyennes et supérieures de Pékin et des régions du Nord. Il y a une forte proportion de débutants qui préfèrent skier en intérieur dans les snowdromes. Bon, ça, je trouve ça me fait moins rêver, ça.
Oui, ça fait moins rêver. Hein. Alors, et l'après-ski en Asie, Didier, on fait la fête comme chez nous là-bas.
Eh ben, alors, il existe une forme d'après-ski, mais elle n'a rien à voir avec la culture festive de nos montagnes françaises. L'ambiance est différente, plus calme, plus axée sur le bien-être que sur la fête. Au Japon, c'est la version zen, pensée comme un rituel de récupération.
C'est pas mal non plus. Ça,
ouais, ouais, et de détente, ça m'irait bien aujourd'hui. Avec des bains dans les onsen, ça m'irait très bien. C'est la grande tradition là-bas. C'est un moment social, mais calme, plutôt sans alcool. Les Japonais adorent séjourner dans des auberges traditionnelles quand ils vont faire du ski.
Ah oui, ça c'est bien, ça fait rêver quand même.
Ouais, hein,
oui.
Pas mal. En Corée, très peu d'après-ski, en fait, parce qu'ils rentrent chez eux le soir,
ah oui,
pour la plupart.
La journée.
Et parce que les stations ferment tôt. Alors, en fait, voilà, elles proposent certaines du ski nocturne, mais en fait, bon, voilà, c'est plutôt une activité à la journée. En Chine, comme la culture du ski est émergente, il n'y a pas encore de vraies traditions festives.
Ça va venir.
Oui. Après le ski, les Chinois vont au spa, au restaurant, dans les hôtels qui les hébergent. Les jeunes Chinois commencent à créer une ambiance plus festive. Mais bon, on n'y est pas encore.
Il n'y a pas encore l'ambiance des bronzés font du ski.
C'est ça, on n'y est pas. Quoi.
Bon, Didier.
Oui.
C'est déjà fini.
C'est ça que j'essayais de voir, je ne savais pas où on en était.
Et oui, voilà, c'est fini. On en parlera des autres sports.
Ouais, mais c'était bien
l'année
aussi.
Prochaine, c'était
moi,
super.
J'adorerais
j'ai
goûter
beaucoup la neige
moi aussi.
Japonaise et puis les onsen après, ça me plaît bien.
Je suis comme toi.
Chères auditrices, auditeurs, on vous souhaite un joyeux Noël avec les livres que Laura nous a proposés. Laura, encore merci d'être venue dans notre Asialogie de Noël. Chères auditrices, auditeurs, on se retrouve l'année prochaine.
C'est ça.
Et oui, déjà, il y aura des rediffusions quand même.
Oui, bah oui,
on
un petit
prévu,
peu, parce que
on bah, pas vous
si on veut aller goûter la neige au Japon, forcément, on peut pas être là.
C'est ça, on peut pas être là. On se retrouvera pour de
bientôt.
Nouvelles émissions début janvier.
En tout cas, on vous souhaite
Prenez
de belles
soin
fêtes de
vous,
fin d'année.
Très belles fêtes de fin d'année.
À bientôt.